Chapitre 49. Les serpents s'entrelacent. À 11h30 du soir, cinq équipages étaient arrêtés rue Saint-Georges, à la porte de l'illustre courtisane. C'était celui de Lucien qui vint avec Rastignac, Blondet et Bixiou, celui de Dutillet, celui du baron de Nucingen, celui du Nabab et celui de Florine que Dutillet racola. La triple clôture des fenêtres était déguisée par les plis des magnifiques rideaux de Chine. Le souper devait être servi à 1h, les bougies flambées, le petit salon et la salle à manger, déployaient leur somptuosité. On se promit une de ces nuits de débauche auxquelles ces trois femmes et ces hommes pouvaient seuls résister. On joua d'abord, car il fallait attendre environ 2 heures. « Jouez-vous, my lord ?» dit Dutillet à Peyrade. « Il aurait joué avec O'Connell, Pitt, Fox, Canning, Lord Brougham, Lord. »« Dites tout de suite une infinité de lords, » lui dit Bixiou. « Lord Fitzwilliam, Lord Ellenborough, Lord Hertford, Lord. » Bixiou regarda les souliers de Peyrade et se baissa. « Que cherches-tu ? » lui dit Blondet.
« Parbleu, le ressort qu'il faut pousser pour arrêter la machine, » dit Florine.
« Jouez-vous 20 francs l'affiche, » dit Lucien.
« Je joue tout ce que vous voudrez perdre. »«
Est-il fort ?» dit Esther à Lucien. « Ils le prennent tous pour un Anglais. »
Dutillet, Nucingen, Peyrade et Rastignac se mirent à une table de whisk. Florine, Madame de Valnoble, Esther, Blondet, Bixiou restèrent autour du feu à causer. Lucien passa le temps à feuilleter un magnifique ouvrage à gravure.
« Madame est servie !» dit Paccard dans une magnifique tenue.
Peyrade fut mise à gauche de Florine et flanquée de Bixiou, à qui Esther avait recommandé de faire boire outre mesure le nabab en le défiant. Bixiou possédait la propriété de boire indéfiniment. Jamais dans toute sa vie, Peyrade n'avait vu pareille splendeur, ni goûté pareille cuisine, ni vu de si jolies femmes.
« J'en ai ce soir pour les 1000 écus que me coûte déjà la Val-Noble, » pensa-t-il. « Et d'ailleurs, je viens de leur gagner 1000 francs. »«
Voilà un exemple à suivre !» lui cria Madame de Val-Noble,
qui se trouvait à côté de Lucien et qui montra par un geste les magnificences de la salle à manger. Esther avait mis Lucien à côté d'elle et lui tenait le pied entre les siens sous la table.
« Entendez-vous ? » dit la Val-Noble en regardant Peyrade qui faisait l'aveugle. « Voilà comment vous devriez m'arranger une maison. Quand on revient des Indes avec des millions et qu'on veut faire des affaires avec des Nucingen, on se met à leur niveau. »«
Je suis en société de temperance. » »«
Alors vous allez boire joliment, » dit Bixiou, « car c'est bien chaud les Indes, mon oncle. » La plaisanterie de Bixiou pendant le souper fut de traiter Peyrade comme un de ses oncles revenus des Indes.
Potable dit Val-Noble, m'a dit que vous aviez hésité ? »
demanda Nucingen en examinant Peyrade.
Voilà ce que je voulais entendre, dit Dutillet à Rastignac, les deux baragouins ensemble.
Vous verrez qu'ils finiront par se comprendre, dit Bixiou, qui devina ce que Dutillet venait de dire à Rastignac.
Sœur Béronette, y ai conçu une little speculation, oh, very comfortable. « Beaucoup, très profitable and rich de bénéfices. »«
Vous allez voir, » dit Blondet à Dutillet, « qu'il ne parlera pas une minute sans faire arriver le Parlement et le gouvernement anglais. »«
C'est être dans le China, pour le opium. »«
Oui, je connais, » dit aussitôt Nucingen, un homme qui possédait son globe commercial.
« Mais le gouvernement anglais avait un moyen d'action de l'opium. »
Puis souffrir la Chine et le nul permettrait boin. Nucingen lui a pris la parole sur le gouvernement, dit Dutillet à Blondet.
Ah, vous avez fait le commerce de l'opium ? S'écria Madame de Val-Noble. Je comprends maintenant pourquoi vous êtes si stupéfiant. Il vous en est resté dans le cœur.
Foyez, cria le baron au soi-disant marchand d'opium et lui montrant Madame de Val-Noble.
Vous êtes comme moi. Jamais les millionnaires ne peuvent se faire aimer tes femmes.
Y est aimé beaucoup et souvent milady, répondit Peyrade.
toujours à cause de la tempérance des Bixiou qui venait d'entonner à Peyrade sa troisième bouteille de vin de Bordeaux et qui lui fit entamer une bouteille de vin de Porto.
« Oh !» s'écria Peyrade, « it is very fine of Portugal of Angleterre !»
Blondet, Dutillet et Bixiou échangèrent un sourire. Peyrade avait la puissance de tout travestir en lui, même l'esprit. Il y a peu d'Anglais qui ne vous soutiennent que l'or et l'argent sont meilleurs en Angleterre que partout ailleurs. Les poulets et les œufs venant de Normandie et envoyés au marché de Londres autorisent les Anglais à soutenir que les poulets et les œufs de Londres sont supérieurs, very fine, à ceux de Paris qui viennent des mêmes pays. Esther et Lucien restèrent stupéfaits devant cette perfection de costume, de langage et d'audace. On buvait, on mangeait, tant et si bien en causant et en riant, qu'on atteignit à 4 heures du matin. Bixiou crut avoir remporté l'une de ses victoires si plaisamment racontées par Brillat Savarin. Mais au moment où il se disait, en offrant à boire à son oncle, « J'ai vaincu l'Angleterre !» Peyrade répondit à ce féroce railleur un « Toujours, mon garçon !» qui ne fut entendu que de Bixiou.
« Et les autres, il est anglais comme moi. Mon oncle est un gascon. Je ne pouvais pas en avoir d'autres. »
Bixiou se trouvait seul avec Peyrade, ainsi personne n'entendit cette révélation. Peyrade tomba de sa chaise à terre. Aussitôt, Paccard s'empara de Peyrade et le monta dans une mansarde où il s'endormit d'un profond sommeil. À 6 heures du soir, le nabab se sentit réveillé par l'application d'un linge mouillé avec lequel on le débarbouillait et il se trouva sur un mauvais lit de sangle face à face avec Asie masqué et en domino noir.
« Ah ça, papa Peyrade, comptons-nous deux » dit-elle.
« Où suis-je » dit-il en regardant autour de lui.
« Écoutez-moi, ça vous dégrisera, » répondit Asie. « Si vous n'aimez pas Madame de Valnoble, vous aimez votre fille, n'est-ce pas ?»«
Ma fille ?» s'écria Peyrade en rugissant.
« Oui, Mademoiselle Lydie. »«
Eh bien ?»«
Eh bien, elle n'est plus rue des Moineaux, elle est enlevée. »
Peyrade laissa échapper un soupir semblable à celui des soldats qui meurent d'une vive blessure sur le champ de bataille.
« Pendant que vous contrefaisiez l'anglais, on contrefaisait Peyrade. » Votre petite Lydie a cru suivre son père, elle est en lieu sûr. Oh, vous ne la retrouverez jamais, à moins que vous ne répariez le mal que vous avez fait.
Quel mal ?
On a refusé hier, chez le duc de Grandlieu, la porte à Monsieur Lucien de Rubempré. Ce résultat est dû à tes intrigues et à l'homme que tu nous as détaché. Pas un mot.
Écoute, dit Asie en voyant Peyrade ouvrir la bouche, tu n'auras ta fille pure et sans tache, reprit Asie en appuyant sur les idées par l'accent qu'elle mit à chaque mot, que le lendemain du jour où M. Lucien de Rubempré sortira de Saint-Thomas-d'Aquin marié à Mademoiselle Clotilde. Si dans 10 jours Lucien de Rubempré n'est pas reçu comme par le passé dans la maison de Grandlieu, tu mourras d'abord de mort violente sans que rien ne puisse te préserver du coup qui te menace. Puis, quand tu te sentiras atteint, on te laissera le temps avant de mourir de songer à cette pensée, ma fille est une prostituée pour le reste de ses jours. Quoique tu aies été assez bête pour laisser cette prise à nos griffes, il te reste encore assez d'esprit pour méditer sur cette communication de notre gouvernement. N'aboie pas, ne dis pas un mot, va changer de costume chez Contenson, retourne chez toi, et Kat te dira que, sur un mot de toi, ta petite Élidie est descendue et n'a plus été revue. Si tu te plains, si tu fais une démarche, on commencera par où je t'ai dit qu'on finirait avec ta fille. Avec le père Canqual, il ne faut pas faire de phrases ni prendre de mitaines, n'est-ce pas? Descends et songe bien à ne plus tripoter nos affaires. » Asie laissa Peyrade dans un état à faire pitié. Chaque mot fut un coup de massue. L'espion avait 2 larmes dans les yeux et 2 larmes au bas de ses joues réunies par 2 traînées humides.
« On attend M. Johnson pour dîner !» dit Europe en montant sa tête un instant après.
Peyrade ne répondit pas. Il descendit, alla par les rues jusqu'à une place de fiacre, il courut se déshabiller chez Contenson, à qui il ne dit pas une parole, il se remit en père Canquel et fut à 8 heures chez lui. Il monta les escaliers, le cœur palpitant.
Quand la flamande entendit son maître, elle lui dit si naïvement « Eh bien, mademoiselle, où est-elle ?» que le vieil espion fut obligé de s'appuyer. Le coup dépassa ses forces. Il entra chez sa fille, finit par s'y évanouir de douleur en trouvant l'appartement vide et en écoutant le récit de Kat qui lui raconta les circonstances d'un enlèvement aussi habilement combiné que s'il l'eût inventé lui-même. « Allons, se dit-il, il faut plier. Je me vengerai plus tard. Allons chez Corentin. Voilà la première fois que nous trouvons des adversaires. Corentin laissera ce beau garçon libre de se marier avec des impératrices s'il veut. Ah, je comprends que ma fille l'ait aimé à la première vue. Oh, le prêtre espagnol s'y connaît. Du courage, papa Peyrade, dégorge ta proie. Le pauvre père ne se doutait pas du coup affreux qu'il attendait. » Arrivé chez Corentin, Bruno, le domestique de confiance qui connaissait Peyrade, lui dit « Monsieur est parti. Pour longtemps ? Pour 10 jours. Où ? Je ne sais pas. Oh mon Dieu, je deviens stupide. Je demande où ? Comme si nous le leur disions, pensa-t-il.